A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
L'homme des frontières est coincé dans un fauteuil et ça me fait rire en sol majeur. Pas plus élégant que Stéphane Castikas, un habitué des couloirs diplomatiques et des voyages en première classe, mon intuition me dit ça. Et comme l'intuition ça l'intéresse, ça tombe bien. Neurobiologiste de renommée internationale, professeur à la faculté de médecine et à l'école polytechnique fédérale, entrepreneur et dirigeant de multinationales, mon gène intuitif me suggère un autre terrain de conversation avec lui, celui du thriller. J'ai sur la table son premier roman intitulé « La séquence » où la science le dispute à l'histoire et où l'évolution du genre humain dépend d'un brin d'ADN unique appelé, je viens de vous le dire, « La séquence ». La frontière entre l'humain et l'animal, le bien et le mal, l'inné et l'acquis travaille notre homme, grand voyageur lui-même entre plusieurs ciels, la Suisse, l'Italie, la Grèce, mais aussi les États-Unis et l'Afrique. Bonjour et benvenuto Stéphane Castikas.
Bonjour, Jasmine.
Alors, l'idée de la frontière, en fait, c'est la première remarque que je peux me faire et vous la faire aussi, c'est qu'elle est transversale, finalement, à tout ce que vous faites.
C'est vrai que l'un des enseignements principaux au cours de ces dernières années, de ces 20-25 dernières années de travail, c'est que les choses intéressantes se passent à la frontière entre les mondes. C'est vrai en science, où il faut aller parfois entre les mathématiques et la biologie, pour faire des découvertes inattendues. Mais c'est vrai dans la vie, et peut-être la meilleure illustration, c'est que la nature nous apprend que le succès vient de la diversité. Donc rechercher ce qui est différent, essayer de se positionner à cette interface, ça a été involontairement d'abord, et maintenant de manière systématique, une de mes priorités.
Je le note, le succès vient de la diversité. On était fait pour se rencontrer en sol majeur, on y reviendra sans doute. La frontière entre l'hier et l'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous travaille, mais en tout cas, cette frontière est présente en sol majeur. Et c'est drôle parce que ça fait presque un peu Noël. Que vous rappelle ce son qui pourrait presque passer pour un grondement terrestre, Stéphane Castikas ?
Mais deux choses, mais des choses très proches. D'une part, l'ambiance sicilienne. Je suis né à Catania, en Italie, d'un père grec et d'une maman de Florence. Alors ils se sont rencontrés à l'interface qui était la Sicile, pays de toutes les conquêtes d'ailleurs, mais dont le bruit de fond, il m'a semblé entendre le grondement de l'Etna. Notre maison était sur les pentes de l'Etna et depuis les terrasses, les toits des maisons sont plats là-bas parce qu'il ne neige pas ou pratiquement jamais. On voyait la nuit les éruptions et les jets du volcan et on s'en est approché à plusieurs reprises, probablement au-delà de ce que la prudence aurait dû recommander, mais la relation entre les habitants, ceux qui vivent autour du volcan et le volcan lui-même est très spéciale, très particulière. Donc on aime grandir à l'ombre de sa puissance.
Vous êtes né en 58, donc en Sicile, dans une famille qui a apparemment connu pas mal le déplacement et pas mal de frontières différentes.
C'est vrai, parce que déjà mon père en fait était à moitié grec, à moitié italien. Son père, grec, avait émigré, il était parti de la Macédoine grecque, d'un petit village, pour chercher meilleure fortune en Sicile. Et il a épousé une Sicilienne.
Ah.
Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Italie de Mussolini a décidé d'envahir la Grèce, cette famille a été chassée en Grèce parce que ma grand-mère, sicilienne, avait perdu sa nationalité en épousant un Grec. Alors elle s'est retrouvée à Athènes, ne parlant pas grec, mais parlant italien, la langue de l'envahisseur et de l'oppresseur. Donc ça avait été des moments très difficiles.
Donc l'Italie et la Grèce se regardent en chien de faïence pendant quelques années, sauf dans la famille.
Alors non seulement sauf dans la famille, mais Vous savez, les Italiens ont eu cette attitude pendant l'occupation de la Grèce qui, au début, était un peu fanfaronne. En fait, ils avaient dû être sauvés par leurs alliés allemands qui avaient dû intervenir pour éviter leur déroute. Et au départ, les Grecs avaient beaucoup d'admiration pour cette armée allemande invincible. Et puis la dureté de l'occupation des uns et la compassion dont ont fait preuve beaucoup de soldats italiens a fait que la relation s'est mise en place. Et lorsque l'Italie a retourné sa veste et que les Allemands ont pourchassé leurs anciens alliés, ce sont les familles grecques qui les ont abrités, et notamment la mienne d'ailleurs. Et donc voilà, c'est aussi un autre exemple de comment les mélanges peuvent se faire. Depuis, on dit en Grèce « una faccia, una razza », qui veut dire « même visage, même race », en parlant des Italiens.
Alors vous, Stéphane, vos 10 premières années, vous allez les vivre entre deux pôles assez différents d'ailleurs, la Sicile d'un côté et la Toscane de l'autre. C'est quoi les grandes différences ?
Alors écoutez, il y a la langue d'abord. Hein. Vous savez que l'italien est un mélange de dialectes, et le sicilien d'ailleurs est une langue à part entière. Les toscans sont à l'origine de l'italien moderne, donc il y a toujours un petit peu de snobisme par rapport à tous les autres dialectes, et principalement ceux qui viennent du sud d'ailleurs. Mais dans notre famille, les deux ont cohabité, de manière d'ailleurs à ce que nous trois, les trois enfants, mon frère, ma sœur et moi-même, on finit par acquérir un italien neutre, qui fait que personne n'arrive à nous localiser. Les gens du Nord pensent qu'on est du Sud, ceux du Sud qu'on est du Nord. Et en fait, on est un petit peu apatride.
Donc la langue ?
La langue et les comportements. Aussi bien les Toscans que les Italiens sont très expansifs, très explosifs. La mer, j'ai une passion d'enfant envers la mer. J'ai rêvé d'être océanographe. J'ai rêvé d'être Cousteau. Le soir où mon père est revenu à la maison avec un projecteur 8 mm et un écran, un de ces écrans qui se déroulait à l'époque. Il avait amené deux films, un dessin animé de Walt Disney et Le Monde du Silence de Cousteau. Et je me souviens comme si c'était hier, je devais avoir 7-8 ans, de voir ce que je prenais pour des anges, parce qu'ils avaient les combinaisons que le commandant Cousteau a développées, des combinaisons argentées et ils flottaient dans l'air. Et je me suis dit, je veux être comme eux.
Alors justement, zoom sur votre père, grec, qui a bien failli être emporté par le vent mauvais de l'histoire. À partir de juillet 1965, la monarchie de Constantin II vacille. Une série de gouvernements se succèdent. Le pays connaît des troubles, dont la mort d'un député et d'un étudiant. La suite sera racontée dans le livre et le film Z. Des bruits de bottes résonnent le 21 avril 1967, lorsque des officiers emmenés par le colonel Georgios Papadopoulos prennent le pouvoir par la force et abolissent la Constitution pour établir la fameuse dictature des colonels. Nous sommes en 1974. Alors cette situation, Stéphane Kastikas, elle se traduit comment pour votre père à vous ?
Alors mon père, qui avait démarré une carrière diplomatique, en plus de son activité principale qui était en fait les agrumes, très abondants en Sicile. Ce que je retiens de cette aventure de l'histoire est la démission de mon père.
Votre père était consul ?
Mon père était consul en arrière en Sicile, pour la Grèce, et il a abandonné cette fonction parce qu'il n'était pas d'accord avec la procédure mise en place, indépendamment de ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà, donc cette notion que tout n'a pas forcément un prix et que certaines choses ne doivent pas être acceptées a été un de ses nombreux enseignements.
Alors évidemment, le fils de polyglotte que vous êtes, il a forcément des lettres.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Ma poi chi fu al piede d'un colle giusto?
Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
Guardai in alto,
tant'è amara che poco è più morte.
Vestite già de raggi.
Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose chi vos scorte. Io non so ben ridir come io ventrai.
Elle comme langue maternelle.
Mais vous fondez littéralement, Stéphane Kastikas, en écoutant un extrait de cette divine comédie.
Alors ça me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont en train de me faire fondre en ce moment, mais disons, ce passage en particulier me rappelle ce que ma grand-mère maternelle tenait absolument à ce que nous apprenions par cœur, c'est-à-dire des passages de la Divine Comédie. Donc, elle était 100% toscane, et elle connaissait beaucoup de passages par cœur, elle les récitait. Elle ne nous forçait pas de manière autoritaire, mais elle nous poussait à le faire.
Mais c'était une lettrée, votre grand-mère, ou chaque Toscan connaissait forcément
Alors c'est une très bonne question. Je ne dirais pas que c'était une lettrée, et je dirais qu'on trouve beaucoup de poètes et beaucoup d'érudits dans la rue en Toscane, c'est vrai.
Et, comme à Dublin, avec James Joyce, où le chauffeur de taxi peut vous déclamer un extrait de Jean de Dublin ou d'Ulysse.
Absolument.
Et ça marque comment, alors, ça, d'avoir la Divine Comédie? J'ai presque une question même qui pourrait intéresser le neurobiologiste que vous êtes, Stéphane Casticas. On écoutait quand même, il faut le dire, un extrait du chant 1, où le poète se perd dans la forêt et où il songe, parce qu'il est un peu dévasté de constater que le chemin de la droiture est perverti par le péché et par la tentation, il songe au suicide. Et puis il se ravise, il est sauvé apparemment par la poésie de Virgile. Alors ma question est la suivante, est-ce que Dante est dans votre ADN? Et si oui, qu'est-ce que ça détermine chez vous?
Alors c'est une question très complexe, parce que mon ADN s'est mis en place avant ma naissance. Et donc, vous sous-entendez que c'est la partie d'ADN de la partie maternelle, de la famille maternelle, qui se retrouve encore chez moi, d'une part, ce qui est juste, génétiquement. D'autre part, vous sous-entendez qu'un élément extérieur, comme un poème, puisse entrer dans l'ADN.
Le langage a son mot à dire, non, dans la fabrication de l'ADN?
Alors, non seulement l'ADN est un langage, mais la biologie moderne a montré que l'ADN n'est pas aussi immuable qu'on le pensait. La séquence de l'ADN, en principe, est stable, mais il y a des événements externes qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui vient au-dessus de la génétique, qui peuvent le modifier. Et on sait, pour terminer la profondeur de votre question, que ce qui arrive à nos mamans et à nos grands-mamans a en fait un impact sur la capacité de notre ADN à s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On le sait notamment pour la nourriture, qui a un impact majeur. Donc, je n'ai écrit des poèmes que entre l'âge de 8 et 9 ans. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'un des rares dont je me souviens dit que c'est le poème d'une pantoufle, et un autre qui attend le pied qui va arriver tous les matins pour la faire voyager.
Ça, c'est le poème que vous avez écrit à 8 ans?
C'est un poème que j'ai écrit à 8 ans.
Mais j'achète.
Oui. Ben écoutez, je vends. Vous avez fait allusion au fait que je voyage beaucoup. Je voyage trop. Mais oui, je pense que la poésie est dans mes gènes.
Donc vous avez voyagé d'une langue à l'autre, évidemment, puisqu'après le florentin, dans votre chambre intérieure, il y a eu aussi du sicilien, que vous avez peut-être aussi annoné comme ça.
Orlando un certo punto era stanchissimo, mentre Renardo ancora ci acquantava, per la stagione che sempre più scempolo facevo meno sforzo e non suonava. Ma Dio col galimmo era un santissimo, diavolo cercava da fillillo dicendoci come te lo giustifichi, se bene non mi vendono ben meglio. Ti pare che non saccio un falso, cassino ma eterna lei spadazza, che ci vendisti a tutti i tuoi femmini, pure una stoppa delle matarazza.
Alors, est-ce que la centona qu'on écoute en sol majeur sur RFI vous fait saliver, Stéphane Casticas?
Alors, elle me rappelle, cette fois, mon père.
C'est ce qu'on chantait en Sicile.
C'est ce qu'on chantait dans les rues, mais surtout...
Tous les petits Siciliens chantent.
Alors, les petits Siciliens, en fait, jouent à ce poème, parce que ce poème parle... C'est la chanson de geste, donc c'est Roland de Roncevaux. Les Français ont occupé la Sicile, et dans ce poème chanté, Roland et Renaud, Orlando et Rinaldo, Orlando Furioso, parce qu'il était le guerrier invisible, et son meilleur ami, sont unis à la vie et à la mort, jusqu'au moment où les deux tombent amoureux de la même femme, Angelica. Et le poème commence en fait en disant, en sicilien, « Voyez ce que peut faire le cheveu d'une belle femme, puisqu'il sépare les deux hommes ». Et vous l'avez peut-être remarqué, mais l'origine du roman, la séquence, Ce sont en fait deux amis inséparables et chercheurs qui tombent amoureux de la même femme, une femme merveilleuse, charismatique, qui les aime en retour d'un amour très juvénile et innocent, jusqu'à ce que l'un d'entre eux fasse le pas, décide de l'épouser et l'accepte. Les deux hommes se séparent et à partir de là commencera l'intrigue qui les mène à la découverte de la séquence.
Et aujourd'hui alors, l'hybride que vous êtes, il parle quelle langue et à quel moment surtout ?
Alors on parle à la maison, on parle français. Nous avons trois enfants, mais au moment où nous avons eu le premier, nous sommes partis aux États-Unis, en Californie, et donc on avait à la maison, on avait déjà deux langues, même trois, l'italien, l'espagnol et le français. En arrivant aux États-Unis, une quatrième est arrivée, surtout au jardin d'enfants. Et à l'époque, on pensait, et je pense que c'était vrai d'ailleurs, que parler trop de langues en même temps, même si les enfants arrivent à le faire, peut créer une certaine confusion, et donc on a choisi à l'intérieur de la famille le français.
Mais quand on échange avec vous, ce qui nous est arrivé au téléphone, je vois que vous dérapez, si je peux me permettre l'expression, en anglais, très facilement.
C'est vrai, parce que la langue de la science, en tout cas pour moi, a été l'anglais. La langue corporate, la langue de gouvernance des grandes compagnies ou des startups de technologie est l'anglais également. Donc l'anglais dans ma vie professionnelle est devenu dominante.
Vous pensez qu'il y a un lien entre ce monde polyglotte dans lequel vous avez grandi et le fait que vous soyez devenu neurobiologiste ?
Alors je me souviens très précisément de comment et pourquoi je suis devenu neurobiologiste. En fait, cette émission me fait découvrir que j'ai peut-être meilleure mémoire que je ne pensais. Parce que je vous ai parlé de Cousteau, donc je l'ai vu nager parmi les poissons et je voulais absolument faire de la biologie marine. En Suisse, c'était pas simple. La Suisse a une flotte, mais elle n'est pas disponible. Et donc, il avait fallu trouver autre chose. Et je me souviens d'un jour à l'université où notre professeur était absent. Et ils avaient fait venir un professeur remplaçant, un jeune professeur assistant, qui était neurobiologiste et qui nous a montré une synapse à l'écran. Alors, une synapse, c'est le point de contact entre une cellule nerveuse et une autre. Elle se donne la main et ce contact est appelé une synapse et c'est là que l'information passe d'une cellule nerveuse à une autre. Alors, le fait de regarder cette image était déjà extraordinairement intriguant et je me suis dit j'adorerais contribuer à essayer de comprendre comment ça marche. Et ensuite, le jeune professeur en question a dit, vous voyez, cette synapse provient d'un crustacé que j'ai moi-même prélevé à 30 mètres de profondeur. Alors là, je me suis dit, voilà, il y avait les anges de Cousteau et maintenant il y a ce demi-dieu qui va me faire faire de la neurobiologie et de la biologie marine en même temps. Donc c'est comme ça que c'est arrivé.
Magnifique. En tout cas, vous pouvez passer tranquillement du, je sais pas, sicilien chevaleresque à la première femme joueuse de cora. Moitié anglaise, moitié gambienne. Je me demandais ce qui vous plaisait particulièrement chez Sona Jobarté, qui est issue d'une grande lignée de griots de l'Afrique de l'Ouest, hein, d'ailleurs.
Alors, les cinq ans que j'ai passés dans une des multinationales, Nestlé, m'ont amené plusieurs fois en Afrique sous-équatoriale, notamment en Côte d'Ivoire. Mais la chaleur que j'ai rencontrée en Côte d'Ivoire est sans parallèle, je dirais, à travers le monde. On côtoie de tout, on côtoie une simplicité et même une pauvreté, et en même temps une chaleur, un émerveillement dans chaque sourire, dans chaque village.
C'est un peu un cliché que de le dire, non ? Vous le savez bien, ça.
Alors, pour moi, c'était nouveau. Oui. Il peut se passer des atrocités partout dans le monde, y compris dans cette région du monde. Mais j'ai eu des contacts éphémères, mais très beaux, très profonds. Et cette musique me les rappelle.
Iko nyinye kabila kinuje musukendo lebelo ringa kuma tunyale na kabilo barakata kende kele tumengi tenyusu ya bangu
Can't you? les troupes allemandes en Grèce. Un camp de chasseurs alpins allemands sur la côte de la mer Égée. Les renforts, les vivres et les munitions sont débarqués dans le port du Pirée. Le maréchal von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée allemande, visite les champs de bataille du front grec. Les soldats du Reich parcourent les ruines de la Grèce antique.
J'ai comme genre humain.
Alors évidemment, cet archivinat de 1941 ne rend pas compte hein, des grandes violences commises par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le Péloponnèse. Mais c'est juste pour évoquer ce chapitre d'histoire, la Seconde Guerre mondiale, qui intéresse, je crois, non seulement le citoyen que vous êtes, Stéphane Cassicas, mais aussi le neurobiologiste.
La partie neurobiologie, elle se traduit en une interrogation. Comment est-ce possible, on le disait pour l'Afrique tout à l'heure, vous l'avez mentionné pour l'Allemagne de 1940, mais on pourrait le citer pour n'importe quel pays, sous n'importe quelle latitude, comment est-ce possible qu'à un moment donné, quelque chose se brise à l'intérieur de l'être humain et qu'il soit capable des pires atrocités? Et ce sont les mêmes personnes qui, après cette cassure, peuvent commettre des actes qui probablement leur auraient semblé impensables auparavant. Donc voilà, ça reste pour moi le plus grand mystère de la personnalité. Comment est-ce que l'empathie qui nous caractérise, qui pour moi est la plus belle des qualités humaines, on la retrouve chez certains animaux à des niveaux différents, mais chez l'être humain, elle devrait être ce qui fait que l'homme n'est bon, si Jean-Jacques Rousseau avait raison. Alors on peut en débattre très longtemps. Ce qu'on sait, c'est que l'homme peut très mal se comporter. Et ça reste pour moi un des très grands mystères de notre personnalité.
Alors on pourrait parler des heures avec vous d'une génétique des comportements. Soyons un tout petit peu concrets. Si on prend ces grands héros du XXe siècle qui ont fait rêver d'ailleurs tout autant qu'ils ont plongé leur peuple dans la terreur, je pense à un Staline, je pense à un Mobutu, je pense à un Pol Pot. Est-ce que vous diriez, question provocatrice, qu'ils étaient génétiquement programmés pour être du côté des forces obscures?
Je pense qu'il y a 30 ans, j'aurais dit non. Je vous aurais dit que c'est l'environnement, c'est l'acquis qui détermine en grande partie ce genre de dérive ou ce genre de comportement. 30 ans après, je crois que l'équilibre entre l'inné et l'acquis est beaucoup plus balancé. Et que certainement, on ne devient pas Pol Pot par hasard, et que quelque part, à l'intérieur de son génome, il en avait à tout le moins la prédisposition, voire les éléments déterminants qui allaient faire que le dit comportement allait ressortir.
En même temps, si Pol Pot avait eu un jumeau, ce n'est pas sûr que les deux jumeaux auraient produit les mêmes comportements.
Alors c'est une très bonne question, très scientifique. Ce genre d'études se multiplie depuis des dizaines d'années et c'est une des raisons de mon changement de réponse sur 30 ans. On est très étonné de voir que des enfants jumeaux vrais, monozygotes, vivant dans des conditions de séparation totale et dans des milieux totalement différents, développent des traits de comportement complexes très similaires. Donc c'est une des évidences que l'inné joue un rôle plus important qu'on ne le pensait, même chez l'homme, malgré sa complexité.
Dame Ned, j'ai envie de dire.
Alors ça peut donner l'impression que tout est bloqué et qu'on ne peut pas sortir de ce cadre, mais ma façon de biologiste moléculaire de voir cette problématique, c'est que nous sommes un tableau, donc un cadre avec une toile, et nous avons des couleurs à disposition. Ça, c'est l'inné. On ne pourra pas sortir des dimensions de ce tableau. Par contre, on pourra y distribuer les couleurs de manière très différente. Et c'est ça notre libre arbitre, et c'est ça la possibilité que nous avons d'essayer de compenser l'héritage que nous avons. Je peux m'entraîner autant que je veux, je ne jouerai jamais au tennis comme M. Federer, je ne courrai jamais aussi vite que M. Bolt, et ça ne nous choque pas, parce que c'est physique, et ce qui est physique touche moins, somme toute. Mais je pense que les mêmes règles s'appliquent à ce qui est mental, voire spirituel.
Donc nous ne sommes pas égaux.
Alors c'est certain que nous ne sommes pas égaux. Maintenant, cette différence, on vient de le dire pour M. Federer et M. Bolt, mais je pourrais le dire pour Einstein, en comparaison de qui je suis totalement incapable et incompétent. Et maintenant, cette différence ne me touche pas. Je l'admire et j'aurais voulu être comme lui, mais je ne le suis pas. Maintenant, le fait de ne pas être égal ne veut pas dire que nous sommes inférieurs. Nous sommes différents, je vous le disiez tout à l'heure. Une des lois universelles que je retiens de la nature, c'est en fait la biologie qui la donne. C'est étonnant parce que les physiciens l'ont cherché, et la physique est la mère de toutes les disciplines. La biologie, parfois, est ressentie comme une science plus soft, plus douce, moins mathématique, moins précise. Pourtant, c'est elle qui nous dit que le succès vient de la diversité. Et si vous faites une photo à un temps donné, la diversité de la nature a été mise en place pour être sûr que la complémentarité nous amène au succès.
Donc, vous qui avez dirigé une multinationale, vous avez vécu cette expérience de la richesse de la diversité.
Alors, j'ai dirigé la science d'une multinationale, donc j'étais un des directeurs de cette multinationale. Il n'y a aucun doute que les équipes y sont diversifiées. Hommes, femmes, ethnies différentes, âges différents, tempéraments différents, sont beaucoup plus performantes, surtout quand on est sous pression, et on est souvent sous pression.
Alors ça pose les choses pour les amateurs de thrillers scientifiques qui nous écoutent en sol majeur. Vous qui êtes devenu auteur par hasard, Stéphane Castikas, vous signez un 400 pages où deux amis, on a l'un qui est professeur qui s'appelle Daniel Fox, qui est à deux doigts de recevoir le prix Nobel, et puis l'autre qui s'appelle Nelson Deven, qui est un homme d'affaires qui est à la tête d'un empire. Ensemble, ils découvrent un fragment d'ADN qu'ils appellent donc la séquence. Alors, explication pas trop technique, qu'est-ce que ça peut être la séquence? Qu'est-ce que
vous
appelez
la séquence? Ces deux hommes travaillaient ensemble quand ils étaient jeunes, avant d'être séparés justement par l'amour pour Eleonore, qui deviendra la femme de l'un d'entre eux. Alors, la séquence est en fait une métaphore qui représente la partie génétique qui a fait de nous des êtres humains. Il y a 5, 6, 7 millions d'années, il y a eu, à un moment donné, un changement majeur qui a fait que aujourd'hui nous avons des lignées de primates et une lignée humaine. Si vous comparez le génome d'un être humain avec le génome d'un chimpanzé ou d'un gorille ou d'un bonobo, d'un grand singe, 98% de ce génome est identique. Dans ce 2%, il y a la réponse à quel a été le rôle de la génétique dans le processus d'hominisation, c'est-à-dire l'expansion du cerveau qui a fait de nous des êtres humains.
Autre question qui m'intéresse bien en sol majeur, qu'est-ce qu'il en est de ce pharaon qui intéresse tant votre Daniel Fox? Je parle d'Akhenaton, je rappelle, dont on dit qu'il a, à son époque, opéré une révolution religieuse, puisqu'en plein polythéisme, il impose le culte d'Aton, le culte du dieu solaire, en culte unique. Et vous, enfin vous, je ne sais pas c'est, qui êtes-vous d'ailleurs, Stéphane Castikas, vous dites que c'est la génétique d'Akhenaton qui l'aurait éveillé au monothéisme.
Alors, Daniel Fox découvre la séquence.
C'est trop facile, ça.
Il va recevoir le prix Nobel. Et un des aspects remarquables de la séquence du livre, c'est qu'elle est immuable. Elle est identique chez tous les êtres humains. Aucune différence, aucune variabilité. Ce qui théoriquement n'est pas possible, parce qu'il y a toujours des petites variétés dans l'ADN. Et alors, donc, il va recevoir ce prix Nobel en disant « J'ai découvert la séquence responsable de l'hominisation. Elle est tellement importante que même la nature ne l'a jamais touchée. » Et il va demander un moratoire pour interdire qu'on fasse de la génétique, qu'on la manipule. C'est ce moratoire qui va démarrer la course-poursuite et l'aspect policier du roman, parce que les cotations boursières plongent, l'industrie pharmaceutique le déteste, il devient l'homme à abattre. Et au moment où il se cache, parce qu'il a découvert cette séquence immuable, il va faire une découverte encore plus importante. Alors, je ne sais pas combien je dois révéler du livre, hein, mais cette découverte très importante, il l'a fait sur l'ADN du pharaon Akhenaton. Et c'est ce qui va lui permettre de proposer, et je ne fais qu'emprunter son langage, qu'en fait, la génétique d'Akhenaton l'a peut-être amené à être soit plus réceptif, soit plus intuitif, en tout cas plus empathique, ce qui va dans le sens des religions monothéistes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des gravures du pharaon Akhenaton,
oui,
mais c'est le seul parmi ses prédécesseurs et ceux qui lui ont succédé qui a demandé à ce qu'on le représente avec ses enfants dans les bras, par exemple. Les pharaons, normalement, se montrent en train de décapiter les ennemis et de les soumettre en esclavage. Lui, non. lui, il voulait qu'on le voie en famille avec son épouse, la merveilleuse, sublime, mythique Nefertiti. Mm-hmm.
Et donc le gène de l'empathie était.
Et donc c'est un peu le gène de l'empathie, ouais. Voilà. Le lieutenant Santos était de mère éthiopienne et de père argentin. Il avait hérité de ce dernier des yeux couleur miel, un teint clair, bien qu'éternellement hâlé, et un caractère taciturne. De sa mère, il avait le port des chasseurs des grandes plaines africaines, leur beauté, leur résistance physique et leur force morale. Orphelin, Rafale avait dérivé d'une maison de correction à l'autre à travers l'Amérique latine. Déchiré par le temps, il avait tout perdu, sauf sa dignité naturelle. Remarqué par un geôlier pour ses qualités physiques, il avait été recommandé pour la Légion étrangère. Recruté, il y avait trouvé une famille et des raisons de ne plus se laisser mourir jour après jour. Dès son arrivée à Saint-Manin, Rafale avait fait le tour de la petite place et arpenté les rues avoisinantes inlassablement. Mais la cible restait introuvable. Il mit une main dans sa poche et effleura la photographie de l'élégante jeune femme qui avait un air si familier. Familier mais insaisissable, comme enfoui au plus profond de son inconscient. Elle lui inspirait une infinie détresse et le sentiment d'une mort imminente. Sa mémoire, cruelle compagne de nombreux souvenirs qu'il aurait voulu oublier, avait décidé de lui interdire celui-ci. « Peu importe, pensa Rafale, je vais la trouver et terminer la mission. »
Merci Stéphane Casticas pour cet extrait en sol majeur de la séquence. Je vois que ce fragment d'ADN vous entraîne évidemment jusqu'en Amérique latine et jusqu'en Afrique.
Jusqu'en Afrique, en Égypte plus précisément, puisque c'est là que se trouve l'origine, en Égypte et au Moyen-Orient en général, que se trouve l'origine de cette séquence modifiée qui va faire que le scénario policier du livre va basculer vers quelque chose de plus spirituel et une quête qui va aboutir à la découverte de ce qui pourrait être le plus beau secret de l'humanité.
Vous savez bien le vendre, en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes auteur par hasard, je me demande. La notion d'égalité et de différence dans notre patrimoine génétique vous fait travailler du chapeau. Je le sais maintenant, au point de m'avoir évoqué pendant notre conversation off un film qui nous a bouleversé il y a quelques années, qui s'appelle Le Huitième Jour. C'est l'histoire d'un homme dit normal, qui est incarné par Daniel Auteuil, dont la vie est transformée par sa rencontre avec un être différent, trisomique, incarné par Pascal Duquesne. Et je vous ai trouvé une petite scène, jouée sur fond de feu d'artifice dans une caravane. Les amoureux, qui sont deux trisomiques, vivent leur première nuit d'amour.
Mon papa, c'est pas permis.
Quoi ça ?
Tu sais bien faire l'amour.
Qui dit ça ?
C'est mon papa qui le dit.
Ton papa, il fait bien ?
Oui, mais c'est pas pareil. Il est normal. Il travaille. Il est directeur. Il a une voiture et tout.
Je ne veux pas faire l'amour avec un directeur.
Je ne sais pas ce que vous me chuchotez à l'oreille, vous allez me dire, Stéphane. Comment le neurobiologiste a ressenti ce film, Le Huitième Jour ?
Disons, il est clair quand on a en face de soi un enfant ou un adulte qui est trisomique, donc qui a trois copies du chromosome 21, il est clair qu'il y a une différence. Il y a même une différence physique. Mais il est clair aussi qu'il y a une gentillesse, qu'il y a d'ailleurs une empathie, parce qu'il y a une très très grande sensibilité chez des personnes trisomiques. Et la complexité du cerveau d'une personne trisomique, la complexité de tout ce que ce cerveau doit faire, paradoxalement, est aussi performante que la nôtre. Alors il y a la pointe de l'iceberg qui est très visible et qui fait qu'on constate la différence. Mais malgré ça, on voit qu'il y a l'aspiration au bonheur, la poursuite et la recherche du bonheur, qui est un droit fondamental pour tout le monde. Et je pense que peut-être la trisomie 21 est un exemple particulièrement facile à accepter parce qu'on ressent le bonheur des personnes trisomiques. Elles ne ressentent pas la diversité, la différence, au même titre que d'autres diversités, déviances, anomalies génétiques. Et donc, ça rend l'acceptation de l'autre plus facile.
Est-ce que vous êtes prêt à passer à table, cher Stéphane?
Avec vous, ah, Yasmine?
Absolument.
P comme pot-au-feu ou poulet yassa?
Pot-au-feu.
Vous n'avez pas goûté le poulet yassa dans tous vos voyages là?
Alors j'adore la cuisine locale à chaque fois que je voyage, mais en fait la nourriture à laquelle on est exposé quand on est enfant nous marque profondément. On parlait dîner d'acquis. Ce qui est fantastique dans l'industrie agroalimentaire, c'est d'apprendre et de remarquer à quel point il y a une diversité qui est forte. Essayer de faire un plat que vont aimer des Allemands et aller le vendre à Hong Kong, ça ne va pas marcher. À la fin, quand la nourriture est sur la table, on revient à nos instincts et à ce qu'on a appris à faire quand on était enfant. Donc, pot-au-feu.
L'Asie ou l'Afrique?
L'Afrique. J'ai une adoration pour l'Afrique, pour la puissance de ses espaces. J'adore le désert, j'adore la jungle, j'adore les côtes, donc le pays est merveilleux. Et en plus, je pense que nous avons une dette historique sans prix pour toutes les exactions qui ont été faites dans ce continent et à ce peuple.
Vous parlez de nous, c'est l'Occident, on est d'accord?
L'Occident, le Moyen-Orient aussi, je veux dire, l'esclavage n'a pas été l'apanage de l'Occident. L'esclavage a été fait de tout temps. Chaque peuple vaincu dans une guerre, on le disait pour les Égyptiens tout à l'heure, devenait l'esclave de l'autre. Mais le mépris systématique, la notion de supériorité qui a été mise en place vis-à-vis du continent africain est une honte que l'humanité doit effacer de manière définitive.
Petite parenthèse, est-ce que l'ancien dirigeant de cette multinationale dont on parle a été témoin de situations esclavagistes, puisqu'on parle d'esclavage moderne sur le continent?
Alors d'esclavagisme, certainement pas. Nous avons tous vu qu'il y a des situations où les enfants, par exemple, continuent de travailler alors que dans nos pays, nous aimons les envoyer à l'école. Toutes les multinationales sont confrontées à cette problématique. Alors celles pour qui j'ai travaillé à une politique très stricte d'ailleurs, vous le savez certainement. Lorsque nous allons visiter une plantation, il n'y a jamais aucun enfant qui travaille. Et nous savons pertinemment que dès que nous repartons, certains de ces enfants reviennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas la responsabilité et qu'on n'essaye pas de faire le maximum pour éviter que ça arrive, notamment en offrant des salaires qui sont meilleurs à ces familles, qui sont plus compétitifs. Mais il faut savoir aussi que quand il y a ce genre de problématiques, elles sont rarement le ressort d'une seule des parties. Et notamment dans certains pays d'Afrique sous-équatoriale, si vous n'avez pas des papiers en règle, et notamment si vous n'avez pas un acte de naissance, vous n'êtes pas accepté à l'école. Alors que voulez-vous faire? C'est clair que les parents préfèrent garder les enfants travaillant avec eux dans les champs que de les voir aller dans les villes ou dans les bidonvilles en train de traîner. Donc c'est une problématique globale où les grandes multinationales ont une responsabilité majeure, mais ça ne permet pas d'oublier les responsabilités gouvernementales et les responsabilités des instances nationales et internationales.
Liberté, égalité, fraternité ou Yes We Can?
J'aurais envie de dire les deux, parce que je ne pense pas qu'ils sont en opposition. Liberté, égalité, fraternité, c'est un must, puisque vous parlez anglais, je le fais aussi. Je pense que ça doit être le bruit de fond qui doit animer la plateforme, pas le bruit de fond, la plateforme dont doivent s'envoler toutes les initiatives. Et Yes We Can n'est qu'une initiative parmi beaucoup d'autres.
Ulysse ou Achille?
Alors c'est très difficile. Parce que si je dis la vérité, je vais passer pour un aventurier.
Il y a pire.
Disons, Ulysse est fascinant par sa sagesse et Achille a été, à mon avis, à tort décrié comme une brute irréfléchie qui ne cherche que la gloire. J'aime énormément ce demi-dieu qui sait qu'il est immortel, qui malgré tout va à l'encontre de la mort. Mais j'aime surtout l'autre Achille. J'aime l'Achille invincible, à qui on enlève sa prise de guerre, une jeune femme, une prêtresse d'Apollon, dont il tombe amoureux, qui pourrait très bien aller la reprendre, et qui, au lieu de ça, va se vexer, va bouder dans son coin, et va causer la perte des Grecs, presque, pendant une dizaine d'années. J'y vois quelque chose de beaucoup plus profond, et je suis pour ma part convaincu qu'il avait une relation très difficile avec Apollon, le dieu protecteur de Troie. Et j'y vois d'ailleurs, sans faire trop de digressions, parce que je n'en ai ni la culture, ni la connaissance, un clin d'œil vis-à-vis de l'Égyptien Akhenaton. Lui-même était de 1300 avant Jésus-Christ. On pense que la guerre des Troie était en 1300 avant Jésus-Christ. Et les deux s'appuient sur un dieu soleil. Aton en Égypte, Apollon en Grèce. Donc voilà, Achille.
La Callas ou Cecilia Bartoli?
Alors, la Callas. Très difficile à trouver en enregistrement. Donc je me rabats, si j'ose dire, et je lui porte ombrage, parce que c'est une chanteuse fabuleuse, sur Cecilia Bartoli, qui a une voix merveilleuse.
Qu'on écoutera.
Mais qui peut-être me touche un tout petit peu moins que les grésillements des vieux enregistrements de Callas.
Alors avant de la retrouver, cette grande Bartoli, je vous fais le coup des pieds dans l'eau, Stéphane. Il pourrait bien qu'on se retrouve avec des oursins ou des phoques. On est dans le bleu de l'océan Pacifique sur la côte californienne avec cette question en sol majeur. Stéphane Castikas, pourquoi est-ce que vous kiffez à ce point San Diego?
J'adore San Diego pour deux raisons, deux contrastes. D'une part, une nature extraordinairement sauvage. À une demi-heure de San Diego à l'est, vous avez le désert californien. Et à 30 secondes à l'ouest, vous avez l'océan avec des plongées que j'ai eu l'occasion de faire, absolument fabuleuses, dans les kelps. Ce sont des très longues algues, très effrayantes d'ailleurs. Et au détour de chaque algue, vous trouvez un phoque, une otarie, c'est les bruits qu'on a entendus aussi.
Et vous pensez au commandant Cousteau de votre enfance?
Alors, non seulement j'y pense, mais j'ai pu mettre le pied sur la Calypso 2, justement, à San Diego. Et donc, d'une part, il y a cette nature extrêmement sauvage. Et d'autre part, par rapport à mon métier qui est la science, ou qui était la science en tout cas, parmi les plus grands centres de recherche au monde, il y a le Salk où j'ai travaillé, il y a Scripps où j'ai travaillé, comme les deux héros du livre d'ailleurs, Daniel Fox et Nelson Devine. Donc ce mélange entre la douceur de vivre sur une plage californienne, mm-hmm, et en même temps la technologie de pointe, les investisseurs, les affaires, qui fait que c'est un endroit extrêmement attirant.
Alors on a évoqué la Sicile, on a évoqué Florence, on a évoqué un petit peu la Suisse... On a évoqué l'Afrique, les États-Unis. Une dernière question en sol majeur. Finalement, à quel récit national vous vous sentez rattaché aujourd'hui?
Je me sens plus proche de la Grèce malgré tout. De la Grèce et de ses îles, peut-être parce qu'elle lie un petit peu cette passion pour la mer. J'ai appris à nager à Délos, en fait.
C'est où Délos?
Ben, Délos, c'est pas loin de Mykonos. C'est au centre des Cyclades, un peu. Donc les îles grecques de la mer Égée. Et j'ai appris à nager avec mon père qui trouvait que j'étais trop heureux et qui m'a jeté par-dessus bord.
Bonne technique.
Écoutez, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher chez moi. Ce jour-là, ça a marché. Je me souviens du cri de ma mère avant le splash dans l'eau et la sensation de froid. Et puis tout s'est bien passé et j'ai adoré l'eau. Donc si je devais aujourd'hui décider d'où je terminerai mes jours, probablement que ce serait entre la Suisse et les îles grecques.
Pas loin du liquide amniotique.
Pas loin du liquide amniotique, c'est vrai. Celui dont m'a éloigné le jet de mon père, probablement.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire les doigts de pied où vous voulez d'ailleurs. Hein. La séquence de Stéphane Castikas, c'est aux éditions Favre. Et vous avez un petit mot à nous dire sur les droits d'auteur de ce livre?
Oui, parce que c'est un, ben vous l'avez compris, c'est un livre qui traite de génétique. Et donc les droits d'auteur vont à la fondation Black Swan. qui veut dire signe noir, parce que les signes noirs sont rares. C'est une fondation qui est en Suisse et qui s'occupe des maladies dites rares et orphelines, principalement génétiques d'ailleurs.
On vous embrasse donc, cher Stéphane, ainsi que Cécilia Bartoli. On vous laisse repartir ensemble. Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis ce que je préfère, je crois, le podcast, notre application Pure Radio qui marche bien, mais vous êtes attendu aussi derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, on a bien compté, ça fait 15h à Paris. Tania Tsikounas, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Monsieur Raleb Benchir. À la semaine prochaine.